J'espère néanmoins que quelques similitudes vous effleureront entre la croyance religieuse et certains phénomènes de croyance qu'on va essayer d'évoquer pendant cette soirée. Je voudrais d'abord remercier Michel de son invitation et lui dire mon admiration pour le travail qu'il fait depuis des décennies à poser des problèmes qui n'ont pas nécessairement des solutions. Alors, je ne suis pas sûr que le problème de ce soir puisse trouver dans notre discussion une solution, en tout cas une solution unique ou univoque. Hein. Mais je crois que c'est à force, effectivement, de se poser des problèmes et d'y réfléchir, et bien qu'on arrive à mieux les maîtriser ou mieux vivre avec ces problèmes. Alors, Michel Berry est un homme très intelligent, c'est aussi un homme obstiné, et j'ai eu avec lui une discussion sur le thème de notre soirée, car Michel m'a dit « tu as des propositions, des recommandations, donc il faut être un peu volontariste, et donc on va intituler la séance « Pour une gouvernance efficace des entreprises et des marchés ». Pourquoi pas ? Mais j'aurais tendance à retourner la chose et en tout cas à formuler ce sujet sous forme de question. Peut-on concevoir une gouvernance efficace des entreprises et des marchés afin de prévenir des crises financières majeures ? Alors, c'est une question qui est à la fois simple et compliquée. Elle est simple parce qu'elle se pose à peu près dans les mêmes termes depuis au moins le début des années 30, depuis les années qui ont suivi la grande crise donc de 1929. En 1932-1933, il y avait eu des auditions d'une commission d'enquête du Sénat américain sur la crise. Et à la suite de ces auditions, vous aviez eu un rapport important qui avait été publié. Et il est intéressant de faire la lecture parallèle entre ce rapport de 1932-1933, c'était la commission Pecora qui était en charge de ces investigations, et ce qu'a publié l'administration américaine donc au début de 2011, à la suite donc de la crise de 2008, il y a des similitudes frappantes, c'est-à-dire qu'on se pose des questions voisines déjà à l'époque sur le salaire des dirigeants, les conflits d'intérêts, les agences de notation qui existaient déjà. Et on ébauche des réponses assez voisines. Donc finalement, une question, en tout cas, dont on maîtrise bien la formulation et qui est compliquée, bien précisément, parce qu'elle se pose toujours dans les mêmes termes. Donc apparemment, on n'y a toujours pas trouvé de réponse convaincante. En tout cas, eh bien, il y a toujours des crises qui se produisent et qui se produisent à la suite de phénomènes spéculatifs qu'on croit avoir bien décrit, qu'on croit bien connaître, mais qui continuent à se produire. Alors on pourrait se dire, finalement, pourquoi s'en préoccuper ? Pourquoi ne pas laisser les investisseurs à leurs spéculations, à leurs espoirs de gains, à leurs pertes ? Et finalement, en quoi est-ce que ce sujet est de nature à intéresser les personnes raisonnables, ou tout le moins les personnes qui ne participent pas à ces phénomènes spéculatifs ? Eh bien, il y a une réponse qui, malheureusement, est assez évidente et qui l'est encore plus depuis ces dernières années, c'est que les pertes privées ont vite fait de se transformer en pertes publiques. On ne va pas retracer les événements qui se sont produits depuis 2008, mais finalement, voilà une bulle immobilière aux États-Unis, des banques en difficulté, qui mettent en difficulté tout le système financier, qui donc ralentissent, manquent de paralyser le système de crédit. Donc, première injection massive d'argent public dans différents pays occidentaux en 2008-2009, puis cette crise économique met en lumière l'endettement d'un certain nombre de gouvernements, le gouvernement grec, par effet de ricochet, gouvernement italien, espagnol, portugais, qui change d'ailleurs. Et puis, on a le feuilleton grec, qui est en fait un feuilleton de transformation de pertes privées en pertes publiques potentielles. Je pense que ça, c'est un point sur lequel on pourrait débattre, mais il me semble relativement clair que dans cette espèce de défaut mesuré, contrôlé de la Grèce, eh bien, on transforme partiellement des pertes privées potentielles en risques pour le contribuable de la zone euro et donc en pertes publiques éventuelles si la Grèce ne rembourse pas les prêts qui lui sont faits. Donc, on a un intérêt public à agir et un intérêt public à essayer de comprendre ce qui est en jeu dans ces crises et ce qui est en jeu dans les spéculations qui les précèdent, c'est-à-dire ces engouements pour un produit, une classe de produits dont les prix augmentent ou alors dont le volume augmente, le volume de marché augmente, ce qui était le cas des produits dérivés de l'immobilier, et donc à s'interroger sur ces phénomènes spéculatifs. Ces phénomènes spéculatifs qui sont, selon moi, des affaires de croyance et des affaires de pouvoir. Et c'est ce que j'aimerais illustrer donc pendant le temps de mon intervention. Alors, Michel a évoqué dans son propos introductif des descriptions des spéculations, et notamment celle relativement ancienne et fameuse à juste titre de Zola dans l'argent, donc au début des années 1890. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a deux grandes descriptions du phénomène spéculatif. En tout cas, à mon sens, il y en a deux grandes qu'il est difficile de concilier. Il y a une description plutôt littéraire et philosophique qui met l'accent sur le mimétisme. Ça, c'est ce qu'on trouve donc dans l'argent de Zola, les gens qui achètent tous, qui vendent tous, qui s'imitent les uns les autres, en essayant malgré tout de gagner plus d'argent ou de perdre moins d'argent que le voisin, le concurrent. Et puis, vous avez quelque chose de plus mathématique qui s'inscrit dans la théorie des marchés efficients. Alors, on va rester un tout petit moment sur l'approche que je qualifie de littéraire ou philosophique, mais qui en fait décrit ces phénomènes de mimétisme. Ils sont décrits par Zola, ils sont décrits d'ailleurs dans la même décennie 1890 par des romans américains qui illustrent ces phénomènes spéculatifs, bien que connaissaient aussi les États-Unis à cette époque. On connaît des descriptions assez précises du phénomène mimétique, au moins dès 1908, des articles américains sur la panique boursière de 1907 aux États-Unis. Il y a les passages fameux de Keynes dans sa théorie générale, donc en 1936, avec la métaphore du concours de beauté, qui n'en est pas un. Je redis en quelques mots, un journal interroge ses lecteurs sur les photos, non pas que les lecteurs vont trouver les plus belles, mais celles dont les lecteurs pensent que l'ensemble des lecteurs trouveront les plus belles. Donc il s'agit de s'interroger sur l'opinion des autres au sujet d'une certaine chose, d'un certain objet. Et cela donc bien avant René Girard et ses disciples qui ont beaucoup travaillé aussi sur ces questions de mimétisme. Et puis vous avez la théorie des marchés efficients fait remonter. Alors il est toujours difficile de s'aventurer sur ces terrains de théorie financière devant des universitaires, des gens qui enseignent ces questions, mais bon, qu'on fait remonter à au moins 1900, à des travaux d'ailleurs français. Et finalement, si on essaye de schématiser beaucoup, c'est une théorie selon laquelle les marchés intègrent à tout moment toutes les informations disponibles. On va en rester à cette définition, mais donc par rapport à cette théorie, les moments de spéculation sont finalement des moments où les informations sont erronées, où la lecture de ces informations est erronée, mais très vite, ce qu'on appelle le marché finit par corriger ses erreurs et on revient à la normale et à une situation donc où les marchés intègrent toutes les informations disponibles à tout moment. Alors, je voudrais vous proposer une idée inspirée de mon expérience personnelle aussi dans le monde financier et grâce à laquelle j'essaye de concilier ces deux approches, du moins de les concilier dans une description des phénomènes spéculatifs. Moi, je n'ai pas beaucoup rencontré de financiers qui soient purement obsédés par l'imitation du voisin, qui achètent ou vendent seulement parce que les autres font de même. Ce mimétisme, je ne l'ai pas vu brutalement à l'œuvre, il existe certainement, mais je ne suis pas sûr que cette explication suffise à rendre compte du comportement des acteurs financiers, même en période de spéculation. J'ai vu un certain nombre de personnes qui lisent beaucoup, on lit beaucoup dans le monde de la finance, enfin Laurent Tréca pourra nous dire ce qu'il en pense, mais on lit beaucoup, on essaye d'accumuler des informations et puis de prendre des décisions à la lumière des informations qu'on essaye d'acquérir, ce qui tendrait à corroborer la théorie des marchés efficients. Mais en fait, on lit à la lumière d'une croyance. C'est-à-dire que la même entreprise, la même start-up technologique qui, en 1999-2000, pouvait lever des millions de dollars, aujourd'hui n'aurait pas l'argent pour louer 30 mètres carrés de bureaux. Le même portefeuille de prêts immobiliers qu'on pouvait découper en tranches et vendre à toutes les grandes institutions financières nord-américaines en 2006-2007, aujourd'hui, eh bien, ne trouverait pas du tout preneur. Le même État grec que courtisaient les banques il y a 5 ans, aujourd'hui ne peut plus lever d'argent privé. Donc, vous avez un certain nombre de faits ou d'acteurs qui, structurellement, sont les mêmes, mais on ne réagit pas de la même manière par rapport à ces personnes ou par ces informations, parce qu'on est animé par une certaine croyance en l'état de l'économie et en son avenir. Et je pense que ces phénomènes de croyance expliquent beaucoup les alternances de spéculation et de krach boursier qu'on observe. On ne voit pas tant cela dans l'argent de Zola, mais pour en rester sur les sources littéraires, 50 ans plus tard, une cinquantaine d'années plus tard, vous avez en 1936 un roman que j'aime beaucoup, qui est certainement familier à un certain nombre d'entre vous, qui est le roman de Dos Passos, là, traduit en français par la grosse galette, je crois, The Big Money, et qui décrit donc la spéculation des années 20 aux États-Unis. Et cette spéculation est une affaire de croyance. Vous avez des personnages, un ingénieur, une actrice, qui investissent, évidemment pour s'enrichir. L'objet est de s'enrichir, comme dans l'argent de Zola, comme... Bon, de toute, il y avait depuis des siècles, des millénaires, dans l'histoire humaine. L'idée est de s'enrichir. Mais de s'enrichir en quoi faisant ? En contribuant au bonheur de l'humanité. On achète des actions d'aéronautique parce qu'on a lu dans les journaux que l'aéronautique allait apporter à l'humanité une période de paix et de prospérité et d'entente entre les peuples. Et on investit parce que, on pense que c'est un bon investissement, parce que l'aéronautique va faire cela. Donc on pense que c'est un investissement d'autant plus sûr qu'il repose sur cette croyance. Et puis en même temps, on est davantage justifié moralement de le faire. On n'est pas sur le pur coup boursier, on n'essaie pas de faire quelque chose dont les autres n'auront pas l'idée. Oui, on essaye de le faire, mais on est aussi dans une espèce de marche humaine et de marche humaine vers la paix, la prospérité. Comme en 1999, quand on investissait dans les fameuses dot-com, les start-up, dans l'Internet, qui allait, souvenons-vous-en, ça semble très éloigné aujourd'hui, mais c'était il y a un peu plus de 10 ans, l'économie allait changer radicalement, on allait en finir avec les stocks et donc les crises liées à ces stocks, il y avait une mise en communication immédiate de l'offre et de la demande, et puis une expansion de l'Internet à l'humanité entière, donc à la fois un marché parfaitement transparent, parfaitement souple dans son immédiateté, dans la suppression de tous les intermédiaires, et puis qui allait se répandre donc sur la Terre entière. Donc cette croyance en un Internet, et cette croyance aussi d'une certaine manière en une fin de l'histoire, en une fin des chocs, des crises, des spéculations, des crises liées à un mauvais ajustement entre l'offre et la demande. Cette croyance avait à peine disparu qu'on a trouvé la croyance en la grande modération. Croyance moins médiatique ou médiatisée, mais tout de même croyance forte aux États-Unis ou dans les milieux financiers de manière générale. Croyance qui a été développée, justifiée par des universitaires, des hauts fonctionnaires, des financiers plutôt aux États-Unis, mais qui s'est répandue. Et la grande modération, c'est aussi d'une certaine manière une fin de l'histoire. C'est l'espoir en un monde qui allait désormais être régi par une plus grande confiance et la possibilité d'utiliser un instrument qui est l'instrument de la dette, qui est un instrument qui repose sur de la confiance, mais donc aussi sur de la croyance. Les mots sont les mêmes. Enfin, c'est la fidesse latine, c'est la foi, la confiance, la croyance. Donc la dette, c'est une affaire de croyance, c'est une affaire de confiance. Et on avait trouvé le moyen de faire en sorte que ce marché de la dette, qui était un marché très imparfait, qui était un marché qui était lié aux relations presque personnelles entre le créancier et le prêteur, que ce marché de la dette devienne un marché parfait. Cela par un certain nombre d'instruments dérivés dont on ne va pas faire le détail ici, mais il faut quand même, c'est moins compliqué que des fusées, comme disent les Américains, c'est pas un rocket science, voilà, hein. C'est quand même quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire qu'il s'agissait effectivement de regrouper des prêts et puis ensuite de les tronçonner pour que chacun en ait pour son appétit de risque et donc de pouvoir élargir le marché de la dette à tout le monde financier de façon à ce que chacun en ait pour son risque. Et tout cela assis sur une croyance, la croyance en une croissance du marché immobilier américain, assis sur des considérations sociologiques, l'augmentation du taux de divorce, des évolutions de la population, bon, différentes choses. Et puis on prêtait donc aux ménages, on prêtait aussi aux États. On prêtait, je reprends l'exemple de la Grèce, qui est un exemple intéressant et dont on ne parle pas toujours, selon moi, d'une manière adéquate, en tout cas qui rende compte de ce qui était en jeu, puisque là aussi, il y avait une croyance, qui était une croyance implicite en la mise en œuvre d'une garantie de la zone euro. Finalement, on prêtait à la Grèce parce que tout cela était dans l'euro et puis que tout le monde allait continuer à croître gentiment dans cette grande modération. Alors, vous avez la croyance, mais cette croyance, elle n'est pas toujours explicitée. Cette croyance, elle nourrit un certain nombre de rapports, d'articles qui se citent les uns les autres. Donc, un certain nombre d'articles universitaires qui expliquaient en 2005, 2006, et bien qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, qu'on en avait encore pour longtemps, des rapports du FMI qui expliquaient la même chose. Et puis, tout cela irriguant la production de papier de l'économie, et cette production de papier, eh bien, que lisent justement les financiers de notes d'analystes sur les valeurs de fonds propres, de notes d'agences de notation sur les États, et c'est tous ces documents produisant et eh bien ce que Michel Berry et Claude Rivlin, je suis heureux qu'ils soient des nôtres aujourd'hui, appellent des abrégés du vrai, c'est-à-dire que finalement on avait ces textes qui fournissait des espèces d'abrégés de ce en quoi il fallait croire, et tout cela se résumant en une note une recommandation quand il s'agissait d'analystes. Et toute la machine donc fonctionnait ainsi. On s'est beaucoup ému de la dégradation ou de la mise sous surveillance de la France ou d'autres États par des agences de notation, ou des États-Unis aussi d'ailleurs l'été dernier. On s'est moins ému du maintien pendant très longtemps d'une note exceptionnelle quand on considère les critères avec lesquels donc elles sont données, de ce triple A, donné non seulement à la France mais à un certain nombre d'autres États. Donc cette probabilité de défaut de moins de 0,06% sur 5 ans qui était distribuée à ces États donc par des agences de notation, tout cela donc reposant sur une croyance en un certain avenir de l'économie. Et puis, donc, cette croyance au niveau des idées, si je puis dire, qui correspondait aussi à une croyance en certaines entreprises, des entreprises portées aux nues parce que, justement, elles correspondaient à la croyance du moment. Il faut rappeler Enron, à la fin des années 90, qui était exemplaire de la croyance en une nouvelle économie, de la transformation de tout en de l'immatériel et des transactions électroniques, Goldman Sachs ou d'autres banques dans la dernière décennie. Et puis à l'intérieur de l'entreprise, la croyance, la confiance en un certain nombre de personnes, traders vedettes, dont on a vu à quel point il était difficile de les surveiller, responsables de produits dérivés, éventuellement patrons de banques. Patrons de banques sont rarement à se montrer beaucoup à la presse, mais il y avait quand même donc des, je me souviens, j'en parle un peu dans le livre, du patron de Citigroup, qui a quand même qui a fini par avoir sur son bilan 50 milliards de dérivés d'immobilier, qui se sont révélés pas valoir grand-chose, mais qui était un héros pour ses troupes parce qu'il avait démantelé Glass-Steagall, il avait démantelé la loi américaine de séparation de la banque d'affaires et de la banque commerciale. Il avait dans son bureau son portrait à l'eau forte gravé sur du bois avec au-dessous l'homme qui a fait voler Glass-Steagall en éclats. C'était quand même un homme tout à fait admiré par ses équipes. Et puis, il faut quand même évoquer des héros d'entreprise plus importants, plus fameux, des héros d'entreprises industrielles de la spéculation de la fin des années 90. les patrons de Vivendi, Deutsche Telekom, sans parler de ceux de, d'Enron ou de WorldCom. Je ne veux pas mélanger toutes ces personnes, et je suis prudent. J'ai évoqué tour à tour des gens dont on peut raisonnablement penser qu'ils étaient des gens honnêtes et puis des gens malhonnêtes ou qui ont fait de la prison. Mais je crois justement qu'on a beaucoup insisté sur des malhonnêtetés, alors qu'en fait, il y avait une confiance en des dirigeants, notamment des dirigeants d'Enron, de WorldCom, mais aussi de Vivendi, qui s'articulait avec la confiance en les entreprises et la croyance qui animait tout un phénomène spéculatif. Donc voilà cette croyance qui fonde la spéculation. Et puis il arrive un moment, malheureusement pour tout le monde, pour les investisseurs comme pour les autres, un moment difficile à percevoir, où l'on finit par être moins sûr de sa croyance à soi que de la croyance du voisin, c'est-à-dire qu'on continue à investir, mais parce qu'on se dit que les autres y croient toujours. C'est le concours de Keynes, des photos de magazines. Et puis, un beau jour, la croyance s'effondre. Les idées donc en lesquelles on croyait se brisent. On mesure que l'Internet ne va pas se répandre du jour au lendemain à la Terre entière, que les prêts comportent des risques, que les États sont trop endettés, ne vont pas pouvoir rembourser. Tout cela se passe très rapidement et donc les idées sont en crise, les entreprises aussi, on est aux différents niveaux. Et puis à l'intérieur des entreprises, eh bien, on éjecte les gens qu'on adorait autrefois. Et puis vous avez des périodes d'entre-deux. Nous vivons en ce moment une période d'entre-deux. Donc on pourrait penser que c'est une période où les gens réfléchissent davantage. C'est d'ailleurs ce que je pense personnellement, que les gens réfléchissent peut-être davantage dans les périodes d'entre-deux. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de se demander ce dans quoi investir, comment procéder, quoi acheter, quoi vendre. Mais là, c'est une thèse dont j'espère qu'elle soit contredite, en tout cas dont j'aimerais débattre. Finalement, ce qu'on recherche, c'est le prochain sujet de spéculation, c'est la prochaine croyance. C'est-à-dire, il suffit de parcourir Internet ou les magazines, de prendre rendez-vous avec son banquier pour un placement. Eh bien, il est question des matières premières parce que la Chine en aura besoin, de l'économie chinoise elle-même, des énergies alternatives parce que le charbon est condamné par le changement climatique, le nucléaire par Fukushima. Donc, on a déjà des croyances qui rôdent et au final des croyances candidates à la prochaine spéculation. Donc, ma thèse, une de mes thèses, effectivement, il y en a une, c'est que eh bien, nous sommes dans un équilibre nécessairement instable, c'est-à-dire donc un équilibre pour quelques-uns qui n'ont pas fait les mêmes études que beaucoup d'entre nous ici, eh bien, c'est un phénomène physique où eh bien, on a toujours tendance à s'éloigner du point d'équilibre et à partir donc, vers le déséquilibre. Et dans les rares moments où on est à l'équilibre, eh bien, l'objet recherche son prochain déséquilibre et part vers son prochain déséquilibre. Et pourquoi ? Parce que c'est les moments de spéculation, les moments de hausse forte sont les seuls moments ou les moments principaux où l'on peut gagner de l'argent, où l'on peut espérer gagner de l'argent au risque d'en perdre. Bon. Est-ce que les États ont pris conscience de cette situation ? Comment est-ce que les gouvernements ont agi par rapport à ces crises, notamment par rapport à les dernières crises ? Je ne pense pas qu'on essaye de traiter le problème tel que j'essaye de le décrire là. Et je pense qu'on a une approche à la fois médicale et morale de ces sujets de spéculation. Alors, j'essaye de m'expliquer. Je suis attentif au vocabulaire qu'on utilise pour désigner des situations et l'usage et selon moi l'abus du vocabulaire effectivement médical et moral m'a frappé dès 2008. Il était question de ces produits dérivés comme de produits opaques et toxiques. Ils étaient opaques, c'est-à-dire brusquement on n'y comprenait plus rien. En fait, on était plus illuminé par la croyance. Donc, effectivement, c'est des produits. Ce qui est souvent opaque, c'est ce avec quoi on perd de l'argent. Parce que tant qu'on gagne de l'argent, rien n'est opaque. Tout est très clair. Donc, des produits opaques et puis des produits toxiques. Ça, c'est l'utilisation de cette métaphore de toxicité, quand on l'utilise pour d'autres choses que des vraies maladies, je pense qu'il y a toujours un vrai danger. Et donc, ces produits toxiques qui risquaient de contaminer donc, l'économie. Et donc, on était à la recherche de coupables. Alors, Michel l'a évoqué. Il faut des coupables. Alors, il y a eu des gens qui vraiment n'était, selon moi, absolument pas en rapport avec ce phénomène spéculatif, qui ont quand même commis des choses tout à fait répréhensibles, Madoff. Bon, Madoff est un coupable. Voilà. Madoff a été mis en prison pour 100 ans, 150 ans. Il y a eu d'autres coupables, je pense notamment à Fabrice Touré. Je ne sais pas si ce monsieur vous est familier. Je crois que c'est un exemple plus intéressant que celui de Kerviel, la Société Générale. C'était l'un des responsables d'un de ces produits dérivés, en l'occurrence synthétiques, qu'avait inventé Goldman, et qui s'est retrouvé extrait de la transaction conclue par son employeur avec les autorités américaines, donc explicitement extrait. Son employeur continuant à payer les frais de défense, ce qui est un cadeau empoisonné, parce qu'il peut plus difficilement, j'imagine, mettre en cause son management. Et donc, voilà donc ce jeune homme offert aux commissions d'enquête américaines, à la presse, etc. Donc, il y a cette recherche d'un bouc émissaire et puis cette recherche de l'élimination des produits, des transactions qui ont posé problème. C'est ce qu'on a fait donc avec la loi Dodd-Frank aux États-Unis. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs avec la loi Sarbanes-Oxley en 2002, donc il y a 10 ans, après les affaires Enron, WorldCom. Eh bien, on a essayé d'éliminer ce qui posait problème. Et donc, on est à chaque fois, selon moi, plutôt dans le règlement de la spéculation précédente. C'est-à-dire qu'on a vu ce qui avait posé problème. Et effectivement, je pense qu'il est plus difficile aujourd'hui à un conseil d'administration de travailler aussi peu que le conseil d'administration d'Enron dans les années 90. Il est sans doute difficile de lancer une spéculation aujourd'hui sur des dérivés de produits immobiliers américains, parce que maintenant, il y a des contrôleurs de partout aux États-Unis donc sur ces sujets, de protection de consommateurs, des tas de choses. Est-ce que cela nous prémunit contre la prochaine spéculation ? Sans doute pas, et sans doute pas parce qu'on n'est pas allé rechercher à l'intérieur des entreprises ce qui s'y passe et les mécanismes qui sont à l'œuvre et qui sont des mécanismes qui mettent en jeu le pouvoir est tel qu'il est exercé à l'intérieur des entreprises. Alors, pour essayer d'explorer ce genre de choses, je me suis appuyé sur des rapports d'autopsie, parce que finalement, l'un des rares avantages d'une crise, c'est qu'elle laisse des cadavres. Il y a Lehman Brothers, d'autres entreprises américaines qui ont déposé le bilan et donc qui ont fait l'objet de ce que j'appelle des rapports d'autopsie, c'est-à-dire des rapports commandés par la justice américaine. Tout cela se trouve en accès libre sur Internet. Et ces rapports sont passionnants parce que finalement, on ne connaît jamais mieux une entreprise quand elle est morte, parce qu'elle ne peut plus se défendre contre le regard extérieur. Et donc, on peut voir un certain nombre de choses qui s'y sont produites. Et ce qu'on y observe, c'est la combinaison entre la croyance, la vitesse et le pouvoir. Vous avez cette croyance sur laquelle je ne reviens pas. Tout le monde est convaincu d'une chose qu'il faut faire. Vous avez la vitesse. Alors, c'est une banalité de dire que la vitesse des affaires est de plus en plus importante. Déjà, dans les années 1860, le baron James de Rothschild se plaignait du télégraphe qui l'empêchait de prendre les eaux tranquillement. Je pense qu'avec l'email, on a dépassé un certain stade et un stade certainement qui nuit à la réflexion et ces grandes affaires, ces dernières grandes spéculations, le début de ces spéculations Internet des années 90, coïncidé avec cet email et ces transactions dont on célébrait la vitesse de conclusion at e-speed, vous vous souvenez avec le at de Internet, n'est-ce pas? Bon. Et donc une espèce d'apologie de la vitesse. La vitesse et l'email servant aussi à l'exercice d'un pouvoir, et d'un pouvoir souvent assez brutal, à l'intérieur des entreprises. C'est très clair dans les rapports de faillite d'Enron et de WorldCom. C'est clair aussi dans le rapport de faillite de Lehman Brothers, où il n'y a pas eu les excès et les problèmes d'enrichissement personnel, du moins ils n'ont pas été, dénoncés autant que pour les entreprises qui les avaient précédées de quelques années. Mais vous avez cette vitesse forcée par de la communication électronique interne à l'entreprise, les directeurs de risque court-circuités ou appelés à se prononcer au dernier moment sur des acquisitions extrêmement importantes, faites par exemple l'acquisition d'Archstone par Lehman pour des milliards de dollars, une acquisition alors que le marché était déjà en train de se retourner, alors que c'était une entreprise surendettée qu'on acquérait. Bon, toutes ces choses sur lesquelles je ne vais pas m'étendre sont forcées par un pouvoir d'entreprise auquel il est très difficile d'échapper parce que tout est orienté de la même manière et vers une espèce de concurrence, alors là pour le coup effectivement assez mimétique et donc soutenue par la croyance générale en la nécessité d'agir. Et effectivement, si l'on essaye de se demander, certaines entreprises financières se sont tenues à l'écart de la spéculation sur les produits dérivés immobiliers, elles sont rares. Certaines l'ont fait. C'était toujours, en tout cas dans les rapports que j'ai lus, c'était le président qui l'avait décidé ainsi. Mais Imaginez un directeur de risque d'une banque américaine en 2006 disant, eh bien maintenant, on va se retirer de ces dérivés immobiliers. Il aurait vraiment nui aux résultats trimestriels de sa banque. Ça n'aurait pas été, il aurait aussitôt été contredit par tous ses collègues et il aurait pu réellement nuire à sa banque. C'est-à-dire que le cours de bourse aurait plongé, la banque aurait pu être, acquise par un concurrent, toute l'équipe de management aurait pu être renvoyée et finalement, on serait revenu à la spéculation. Donc, il est en fait difficile d'être sage tout seul, comme disait La Rochefoucauld. Mais ça, c'est un sujet donc, de fond et qui tient à la manière, selon moi, dont le pouvoir est exercé donc à l'intérieur de l'entreprise. Et il y a, selon moi, donc une nécessité à réformer ce pouvoir à l'intérieur de l'entreprise. Alors, le réformer comment ? Vous avez un certain nombre de réflexions sur les sujets de gouvernance. Mais ces réflexions qu'on voit d'ailleurs ressurgir après chaque crise, eh bien, se ressemblent un peu d'une crise à l'autre. Il y a un certain nombre de conseils qui sont prodigués aux présidents d'entreprise, qui doit voir loin, s'abstraire de la tyrannie des résultats trimestriels, écouter, les administrateurs doivent être bien formés, doivent comprendre les rapports qui leur sont soumis. Et donc, on est un peu dans des théories de la gouvernance qui me font penser au miroir princier. Vous savez, à la fin du Moyen-Âge, vous aviez des traités pour les princes qui les appelaient à se comporter en princes chrétiens, soucieux de l'avenir de leur sujet. Et donc, vous avez ces choses qui remontent après chaque crise. Donc, on en a eu une livraison aussi après 2008. Puis, vous avez d'autres réflexions sur la gouvernance qui sont d'une autre nature et qui sont des réflexions liées à la théorie de l'agence, c'est-à-dire qui s'interrogent sur les intérêts convergents ou divergents entre le patron de l'entreprise et les actionnaires, avec un certain nombre de considérations, de procédures donc, qui sont préconisées. Mais je ne pense pas non plus que ces théories nous apportent toutes les réponses souhaitables, parce que je ne pense pas que ce qui ait été en jeu dans ces dernières spéculations, c'est un manque de convergence entre le président et ses actionnaires. Je crois que tout le monde voulait la même chose. Les gens voulaient gagner le plus d'argent possible, le plus vite possible. Beaucoup d'actionnaires, en tout cas, étaient dans cette situation. Les managers aussi. Les managers étaient intéressés à la chose. Alors, c'est vrai, ils n'étaient pas exposés aux pertes comme l'étaient donc les actionnaires. Donc, c'est un sujet important que je ne veux pas nier ici. Mais je pense qu'on n'a pas fait le tour de la question quand on a dit, eh bien, c'est une théorie d'agence et en fait, il faut que le président soit aligné sur les actionnaires. Imaginons d'ailleurs un président qui serait soumis au même type de perte qu'un rentier, un retraité, donc qui aurait mis tout son argent dans l'entreprise, il serait peut-être encore plus excité pour essayer donc d'être vraiment dans le mouvement et de prendre la vague d'investissement quand il le faut et pas 6 mois plus tard. Et donc, ce que je propose, j'en viens aux recommandations, la partie plus délicate de l'exposé. Si la partie sur laquelle il faut sans doute beaucoup débattre, parce que les recommandations sont là aussi pour qu'on en débatte, eh bien, ce que je suggère, c'est finalement d'arriver à retirer à l'intérieur des entreprises un certain nombre de gens hors de ce champ de croyances excessives et arriver donc à les en retirer et à leur donner en même temps suffisamment de pouvoir pour qu'ils puissent s'exprimer, être entendus et freiner la participation de l'entreprise à des phénomènes spéculatifs. Et pour simplifier les choses, ce que je suggère, c'est de gérer les entreprises comme leurs filiales sont gérées. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de filiales de grands groupes dans lesquelles le président est loin d'avoir tous les pouvoirs. Et notamment, il n'a pas le pouvoir, dans un certain nombre de filiales, sur le contrôle financier et la conformité juridique. Vous avez un certain nombre de gens qui dépendent, en fait, de la maison mère et qui contrôlent ce que fait le président. Alors, ce que je propose comme système d'organisation d'entreprise, on va dire de grande entreprise, ce serait intéressant qu'on discute du cas des PME. Bon, c'est pas un cas sur lequel j'ai beaucoup réfléchi dans le livre, c'est plutôt effectivement la grande entreprise, mais pas nécessairement que la grande entreprise financière. Je n'ai pas parlé que de grande entreprise financière, d'ailleurs, dans mon exposé. Donc, qu'il y ait un directeur des risques, ça y en a partout maintenant, mais que ce directeur des risques ait un certain nombre de caractéristiques. D'abord, qu'ils dépendent directement du conseil d'administration, qu'ils ne dépendent pas hiérarchiquement du président. Et qu'il soit protégé dans son emploi. la notion de protection dans l'emploi qui peut varier effectivement selon le contexte juridique. C'est peut-être moins facile en France qu'ailleurs. Mais donc l'idée, c'est que cette personne ait un contrat sur quelques années, un contrat de 5 ans, qu'il ne puisse être licencié que pour faute grave. Mais donc qu'il ait une certaine stabilité donc, dans son emploi. Qu'il ne soit surtout pas rémunéré selon la performance financière de l'entreprise. Ça, donc, c'est selon moi une chose très importante, qu'il soit bien rémunéré, mais pas selon la performance financière de l'entreprise. En cas de désaccord entre lui et le président, c'est le président qui l'emporte. Mais les éléments du désaccord sont portés à la connaissance du Conseil. Il ne s'agit pas de paralyser les entreprises. Il faut que quelqu'un ait le dernier mot. Mais tous les éléments du débat sont portés à la connaissance de l'entreprise. Et surtout, cet homme a des troupes. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous en tête des directeurs de risque. C'est ce que j'ai connu dans une entreprise américaine donc pour laquelle je travaillais. Le directeur de risque, c'était quelqu'un d'extrêmement respecté. Il n'avait pas de troupes. Il était convié là au comité final. Là, il y avait la conférence téléphonique avec monsieur machin, mais en toute fin de deal, de transaction, d'acquisition. Et ce monsieur donnait sa bénédiction avec quelques petits éléments donc à modifier dans la transaction. C'est pas du tout cela, à mon avis, qu'il faut rechercher. Il faut que ce directeur ait des troupes et donc ait l'autorité sur le contrôle financier et ce qu'on appelle en français donc la conformité juridique, la compliance. Ce qui suppose une réorganisation importante des entreprises. Cela signifie que c'est notamment cette personne qui a l'autorité sur l'établissement des comptes de l'entreprise. Donc ça, c'est un sujet sur lequel donc, ce serait intéressant de débattre. Ça suppose effectivement une transformation importante. Et la création, en fait, d'une profession, d'une vraie profession de directeur de risque, et non pas de gens qui vont à la direction des risques et puis qui ensuite retournent à l'opérationnel ou qui y vont en fin de carrière ou qui commencent leur carrière là-dedans parce que ça leur permet de découvrir toute l'entreprise, mais une profession de gens qui éventuellement iraient d'une entreprise à une autre, mais resterait dans ce type d'activité, de métier. Alors, est-ce qu'une entreprise peut décider toute seule de faire cela ? Je ne le pense pas, parce que je ne pense pas que les entreprises le souhaitent, pour des tas de raisons, bonnes ou mauvaises. Et puis, je pense aussi, pour revenir à mon exemple du directeur de risque pendant la crise, qui aurait eu du mal à retirer sa banque américaine de la spéculation immobilière en 2005-2006, que eh bien, c'est très difficile d'être sage tout seul, effectivement. Qu'il faut que ce soit des mouvements de toute une industrie, et donc, selon moi, des mouvements forcés par la régulation. Alors, forcé par la régulation, comment ? Je ne pense pas que les régulations de nature territoriale soient encore efficaces sur les entreprises, en tout cas certainement pas à l'échelle d'un pays comme la France ou comme n'importe lequel des pays européens, peut-être à l'échelle des États-Unis. Mais je pense que nous avons un autre type d'instrument juridique que je trouve intéressant, dont la loi américaine nous offre l'exemple avec les deux lois Sarbanes-Oxley en 2002 et Dodd-Frank en 2010. Je ne parle pas de leur contenu. On pourrait parler beaucoup de leur contenu, d'ailleurs très, très riche. Mais ce sont des lois qui font levier de la cotation des entreprises. Or, les entreprises sont sensibles à leur place de cotation. On peut contourner un territoire, on peut plus difficilement contourner une cotation à New York. C'est possible, c'est difficile. La mairie de New York avait peur, autant de Sarbanes-Oxley, que les entreprises fuient New York pour Londres. Ça n'a pas été le cas, ou du moins pas du tout, à l'échelle des craintes qu'elles pouvaient avoir. Et donc, vous avez des lois qui sont en fait des lois qui entraînent des changements dans la réglementation boursière et donc qui permettent d'imposer aux entreprises des transformations de leur fonctionnement. C'est ce qu'a fait Sarbanes-Oxley, c'est ce que vient de faire Dodd-Frank. Et donc, il est possible d'imposer aux entreprises cotées d'avoir un certain type d'organisation du type de celui que je viens d'évoquer, mais pourquoi pas aussi d'autres choses dont on peut avoir l'idée. Et cela, donc, idée supplémentaire, d'une manière internationalement coordonnée. C'est-à-dire qu'il est aussi envisageable d'avoir une coordination entre les réglementations boursières, parce que bon, même si les entreprises n'ont pas fui les États-Unis, la cotation américaine en 2002, je concède qu'il y aura de plus en plus de risques de fuite vers des places financières de marchés émergents, de places financières chinoises par exemple, donc, qui pourrait être moins exigeante sur le plan de la réglementation, mais bon, c'est un procès que font souvent les entreprises. Je suis peut-être plus réservé sur un procès intenté aux Chinois en manque de réglementation, manque de préoccupations sociales, etc. Mais donc, une coordination donc, entre les réglementations boursières pour forcer un certain nombre de changements, mais à l'intérieur de l'entreprise, et pour que les entreprises ménagent à l'intérieur et dans leur fonctionnement eh bien, des sphères qui soient éloignées donc, de ces zones de croyances fortes et de recherche à tout prix du profit. Ce type de réglementation ou de convention internationale de coordination des réglementations pourrait aussi résoudre des problèmes qu'on se pose régulièrement, qu'on s'est posé à l'occasion de Sarbanes-Oxley en 2002, qu'on s'est reposé en 2010 au sujet des agences de notation. J'ai évoqué les agences de notation donc tout à l'heure, mais en fait, en dépit, à mon sens, de ce qu'on raconte sur le fait que les agences de notation seraient trop sévères vis-à-vis de certains émetteurs, de certains États, je pense que globalement, sur les dernières décennies, les agences de notation se sont montrées au contraire trop peu sévère vis-à-vis d'un certain nombre d'émetteurs, avec ce lien financier bien connu qui est qu'on est payé par celui qu'on note. Bon. Donc, les réformes des agences de notation, elles sont sur la table depuis quelques années. Il y en a une notamment qui vise à interposer une espèce d'écran entre l'agence de notation et l'émetteur, avec donc des appels d'offres qui seraient réalisés auprès d'agences de notation, l'émetteur versant l'argent à cette espèce de structure publique qui elle-même ferait l'appel d'offres donc auprès d'agences. On pourrait tout à fait concevoir que ce dispositif soit mis en œuvre et qu'on rende obligatoire auprès d'entreprises cotées d'y avoir recours, c'est-à-dire de ne pas payer directement l'agence de notation qui les note. En fait, c'est un dispositif qui permet d'avoir une approche de la régulation des entreprises et des marchés, pour revenir au titre, selon moi, effectivement, plus efficace que les grands messes du G20 ou d'autres organismes.
Félicitations. Tenir le temps. Alors, si vous lisez le livre, il y a beaucoup d'autres choses dans le livre, et notamment si vous voulez comprendre ce que sont les produits dérivés, des dérivés de dérivés, les risques qu'ils peuvent entraîner, je vous suggère, il a des exemples extrêmement pédagogiques, et on comprend assez vite qu'on n'y comprend plus rien, et on comprend que finalement plus aucun banquier ne comprenait les mécanismes qui ont été mis en place, parce que poursuivre les raisonnements du livre, c'est pas absolument évident. Si on vit dans l'urgence, c'est totalement impossible.